réveillez vos capteurs sensoriels pour saisir les bienfaits de la nature. Radio Éthique vous propose une rencontre avec Pascal Derme, l'auteur de l'ouvrage « Se régénérer grâce à la nature » paru aux éditions Ulmer dans la collection « Nouvelles Utopies ».
La nature nous inspire naturellement un sentiment d'apaisement. C'est quelque chose de lié à notre histoire finalement. Depuis des millions d'années, l'homme vit dans la nature, donc on a gardé en nous ces traces d'appartenance à la nature. On est composé à 70% d'eau, dans le liquide amniotique il y a des éléments marins, on a de la poussière d'étoiles dans le corps, enfin il y a des éléments à la fois scientifiques et poétiques qui mesurent notre appartenance à la nature, et quand nous nous retrouvons dans cette nature, nous ressentons de façon non pas seulement physique, mais aussi physiologique, les bienfaits de ce retour à des éléments finalement dont nous sommes constitués.
Par rapport à ces explications, ça pourrait amener à une précision que vous donnez dans l'ouvrage en disant que ce besoin de nature pourrait être une manifestation, en quelque sorte animale, d'un instinct de survie.
Effectivement, si on prend la question du manque et donc du besoin, mais vraiment très fort, que certains d'entre nous ressentent, la nature nous manque viscéralement. La déconnexion à la nature nous rend malade, le rythme effréné dans lequel nous vivons aussi, ces atmosphères et cet environnement saturé, pollué, ces absences d'espaces verts peuvent nous rendre malades. On éprouverait un manque de nature qui, c'est comme Jacques je l'interprète d'une façon un petit peu personnelle, serait comme un instinct de survie qui nous pousse à retourner, nous aspirer ces bouffées de nature un peu pour comme un réflexe de survie, un instinct de survie pour se relaxer, pour se régénérer. La nature soigne, hein. Il y a des études scientifiques qui sont encore assez peu nombreuses malheureusement, mais qui ont montré dans les années 80 que des malades dont les chambres donnaient sur des espaces verts guérissaient plus vite, sortaient, avaient besoin de moins d'antidouleurs. D'autres études menées dans des espaces verts de ville, dans des cités difficiles, ont montré que ça crée des liens sociaux et conviviaux plus important, donc c'est l'espace vert génère un sentiment apaisé et réduit l'agressivité. Et on sait aussi que au bout de 3 jours dans la nature, le taux de cholestérol s'abaisse, le flux sanguin est réharmonisé, tout circule mieux au bout de 3 jours seulement dans la nature. Donc voilà, c'est quelque chose de physique, c'est pas seulement une vue de l'esprit que de penser que la nature nous régénère, c'est quelque chose qui commence à être scientifiquement prouvé et physiquement aussi.
Mais face à cela, il existe une civilisation anti-nature. Alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça ?
Oui, la civilisation anti-nature dont parle François Terrasson, qui évoque la peur de la nature, explicite un peu notre peur de la nature en prenant l'exemple des hommes qui ont toujours combattu les bêtes sauvages, qui ont été victimes de bouleversements géologiques de masse. Il y a quand même une violence, évidemment. Et la nature n'est pas rose et il y a une grande violence. Il y a des éléments destructeurs dans la nature. Tout un chacun, nous avons ressenti la peur du noir, la peur dans la nature, nous sentons tout petits. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vient de nos millions d'années d'histoire commune avec cette nature, qui est complètement atavique, d'après François Terrasson. Et cette civilisation anti-nature, elle est liée à la volonté de puissance et d'accaparement des hommes, d'accaparement des ressources naturelles, à cette volonté de progrès, qui est très bien d'ailleurs, hein, mais qu'il faut peut-être un peu canalisé aujourd'hui, mais qui est très bien dans le sens où le progrès a produit de très belles choses. On ne peut pas opposer nature et progrès, à mon avis, mais c'est une civilisation qui est basée sur l'exploitation des ressources naturelles, qui était inconsciente des limites de ces ressources, qui aujourd'hui sont avérées. On sait que les ressources naturelles ne sont pas infinies et on devrait en tenir compte.
D'un autre côté, le bien que nous fait cette nature est une réponse à cette civilisation anti-nature.
Oui, c'est-à-dire qu'idéalement, on devrait arriver à une troisième phase de l'histoire des hommes et de la nature. Il y a eu une première phase où l'homme au paléolithique, et c'est lié à l'agriculture, est allé développer cette nature, la cultiver, la mettre à son service, vraiment. C'est une conception très anthropocentrique de la nature où l'homme est au milieu et il la domine. Voilà, ça c'est une partie de notre histoire et aujourd'hui, on devrait peut-être arriver à une réconciliation où l'homme ne s'opposerait pas en dominant tout puissant, et faire avancer cette histoire vers une réconciliation où l'homme se situerait non pas au centre et tout puissant, mais au milieu et avec la nature, d'une certaine façon.
Pour revenir un peu plus au cœur de l'ouvrage,
oui.
Vous réalisez des ancrages en France,
oui.
Donc au travers du livre, en Savoie, dans le Finistère, dans le Jura et en Île-de-France. Est-ce que vous voulez nous parler de l'un de ces passages de votre ouvrage ?
Je pense que dans cet ouvrage, mon éditeur m'a laissé aller assez loin dans le lien organique avec la nature et je lui en suis très reconnaissante. Et je pense notamment à un exemple que je trouve très poétique et très fort, qui se trouve effectivement dans le Finistère, où des personnes vivent dans des maisons en terre, où j'ai assisté à des scènes très belles et très poétiques, où une maman et sa fille prenaient un bain dans des grandes cuves en grès avec de l'eau de pluie, des pétales de fleurs. C'était très joli, dans une grande joie, dans une grande simplicité, dans une grande bienveillance et reconnaissance envers la nature. Ça paraît très très simple, mais moi, avec mon photographe, on a assisté à ces scènes, donc on en témoigne dans le livre. C'est des gens qui vivent très simplement et qui fabriquent leur maison à la main avec de la bouillasse et des branches, avec beaucoup de joie, qui se nourrissent de plantes, qui cueillent et qui ont par ailleurs des revenus, qui exercent des métiers dans les villages alentours. Ils sont profs de piano, ils travaillent dans le parc naturel régional voisin. Donc ils ont des revenus, mais ils ont beaucoup moins de besoins. Et c'était une vie très en osmose avec la nature qui génère des rapports humains très simples, très vrais, très joyeux, qui nous ont beaucoup marqués. On voulait faire un livre qui n'est évidemment pas un livre pratique, qui est un livre inspirant. C'est pour ça qu'on s'est immergé dans des atmosphères où les hommes et la nature vivent cette phase de réconciliation. Et on s'est immergé avec beaucoup de photos et mon photographe Patrick Lavic a fait un très très beau travail basé sur la confiance qu'il a su susciter de ces personnes qui nous ont invités dans leur lieu, dans leur fougère, dans leur maison en pierre, en terre, à la Pitié-Salpêtrière aussi, puisqu'on a, on a photographié un reportage de jardinage thérapeutique où des enfants autistes jardinent. Et oui, donc c'était très très touchant. Et donc dans tous les lieux de nature où on était, mon photographe a su capter ces ambiances en croquant des tranches de vie, mais de façon très très respectueuse des personnes qui nous invitaient. Et je crois qu'il a fait un très beau travail en effet. Pendant 6-7 mois, j'ai travaillé, j'ai identifié les lieux, j'ai pris des contacts, j'ai choisi les lieux. J'ai voulu avoir des regards croisés sur cette régénération avec la nature qui était mon thème. J'ai voulu avoir un regard en montagne, un peu culturel, qui est l'exemple que nous avons pris en Vanoise avec François Le Tourneux, qui est président du comité français du UICN. Donc c'est un haut fonctionnaire de l'État qui se régénère à sa façon dans la nature avec une approche très culturelle. J'ai voulu avoir un regard un peu médical d'Ann Reed, qui fait du jardinage thérapeutique, qui est une méthode très très pionnière en France à la Pitié-Salpêtrière. J'ai voulu avoir ces poètes du Finistère qui vivent dans la terre. J'ai voulu avoir aussi une naturopathe qui nous invite dans une démarche de réconciliation, pas seulement mentale, mais avec le corps aussi. Donc il y a un nutritionniste aussi. Et ces deux-là nous emmènent dans une aventure, nous apprennent comment méditer, se ressourcer, mais à la fois avec notre corps, donc par l'alimentation, par un jeûne d'ailleurs d'abord, et après par une alimentation plus saine, et avec notre esprit par une méditation, par des exercices de qigong, de gymnastique. Donc c'est la partie peut-être un peu la plus pratique de l'ouvrage, mais je voulais aussi qu'il y ait une partie pratique. Donc c'est moi qui ai croisé ces regards de manière à pas avoir une seule approche et d'aller voir ceux qui faisaient autrement, puisque c'est l'esprit de la collection, ceux qui faisaient le petit pas de côté et qui faisaient différemment.